Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot. France Culture, 19h passé d'une minute. Bienvenue dans Soft Power en direct jusqu'à 20h. Depuis la maison de la radio, bonsoir à tous. Cela se passe en Europe cette semaine, ce jeudi, le jour même du Brexit, mais ne cherchez pas de lien. C'est chaque semaine le même flux et chaque semaine les mêmes victimes. Ce jeudi donc, ils étaient 4500, j'ai bien dit 4500, 4500 personnes avoir été secourus par les gardes-côtes italiens sur des canots pneumatiques et des barques de fortune alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe en traversant au péril de leur vie la mer Méditerranée. Ce soir, nous allons consacrer notre émission aux réfugiés, à leur exil, mais aussi à leur accueil pour ceux qui parviennent vivants jusqu'en France. Mon invité est Pascal Brice, le directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
4500 réfugiés secourus au milieu de la mer Méditerranée ce jeudi. Le chiffre est terrible.
Oui, depuis de longs mois, nous sommes dans ces drames de l'exil. C'est la mission même de l'OFPRA, historiquement, mais depuis de longs mois, ces drames s'accumulent. Des hommes, des femmes, des enfants qui fuient l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, la Corne de l'Afrique.
C'est comme s'ils étaient les derniers à croire finalement au rêve européen.
Ils fuient des guerres, des persécutions. Ils ont la conviction qu'en allant plus loin, ils pourront être accueillis. Ils doivent l'être. Il faut éviter ces traversées et lorsqu'ils arrivent, les accueillir dans de bonnes conditions, faire vivre le droit d'asile, c'est ce à quoi nous nous employons. Mais il y a celles et ceux, vous savez, pour toutes celles et ceux, citoyens, associations, États, OFPRA, qui participent à l'accueil des réfugiés, il y a trop souvent la frustration. Il y a celles et ceux qui n'arrivent jamais. Il y a celles et ceux qui arrivent au prix des pires difficultés. Et nous les connaissons parce que nos officiers de l'OFPRA sont par exemple dans le sud de l'Italie en ce moment même, à l'arrivée de ces bateaux pour aider certains d'entre eux à entrer dans des dispositifs européens de protection. Il y a la nécessité de protéger. Voilà, nous faisons progresser le droit d'asile, notamment en France, dans ces conditions-là.
Avec vous, Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA, nous parlerons des origines de ces réfugiés, de leur lieu de passage, des pays d'accueil, des conditions d'obtention de l'asile politique en France, mais aussi des réseaux sociaux qui jouent un rôle dans la migration par le rêve qu'ils laissent espérer, l'apprentissage des langues et des liens culturels des réfugiés avec leur pays, entre intégration et acculturation. À vos côtés, Barnabé Louche, directeur des partenariats de l'ONG Bibliothèques sans frontières, fondée par Patrick Veil, association qui a lancé notamment l'IDEA Box, un dispositif culturel et numérique destiné aux camps de réfugiés, en particulier syriens. À quoi consiste cette IDEA Box, Barnabé Louche ?
L'IDEA Box est une médiathèque en kit qui tient sur deux palettes. Elle s'ouvre en moins de 20 minutes pour créer un espace culturel de 100 mètres carrés, doté d'une connexion internet, d'une vingtaine d'ordinateurs, de tablettes, d'un cinéma. Elle est une formidable boîte à outils dans laquelle les enfants, les adultes, viennent puiser de l'énergie pour construire leur futur.
On en parle au cours de cette émission IDEA Box, donc par l'ONG Bibliothèques sans frontières. Mes côtés également tout au long de cette émission ce soir, Anaïs Ginori, la correspondance en France de La Repubblica, quotidien italien. Vous avez été notamment à Lampedusa, ou à Calais, Anaïs ?
Oui, une est la porte d'entrée et l'autre est la porte de sortie pour ceux qui veulent sortir de l'Europe. J'ai rencontré beaucoup de migrants à Calais qui étaient passés par Lampedusa. Ils avaient d'ailleurs, peut-être Pascal Brice connaît ça, c'est la pointe des doigts brûlés pour cacher leurs empreintes parce que c'est à travers les empreintes qu'ils peuvent être expulsés. Enfin, c'est ce qui se passait jusqu'à il y a quelques mois.
Pierre Aski, fondateur de Rue 89 et journaliste au Nouvel Observateur. L'Observateur est également avec nous ce soir. Et avec Pierre Aski, outre le débat sur les réfugiés, nous parlerons également de deux sujets médias. Le rachat par le chinois Tencent d'un important studio de jeux vidéo finlandais. Et surtout, dans l'alphabet numérique, on parlera testament numérique. On écoutera également Radiohead, dont le chanteur Thom Yorke est résolument, lui, anti-Brexit. Et puis R, en tournée mondiale, le groupe français. Tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h, à suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de 10h, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook, en podcast et sur France Culture en direct. Pascal Brice, vous êtes directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Alors nous parlerons de culture, de numérique dans la seconde partie de cette émission. Mais pour commencer, évidemment, on va s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler la crise des réfugiés européens, même si le mot est faible. On a l'impression que la route qui, pour beaucoup, était la route principale, qui permettait, notamment pour les Syriens, de passer par les Balkans, a été assez largement coupée et beaucoup moins efficace, entre guillemets, pour un réfugié. Et donc, la Méditerranée est très centrale, on le disait il y a un instant. On parle de la saison des morts, entre guillemets, qui commence dans la Méditerranée. 700 morts fin mai, en trois jours. 2861 morts, déjà, depuis janvier de cette année. Un journal américain a compté qu'on avait une chance sur 60 à peu près de mourir en 2014, lorsqu'on traversait la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Aujourd'hui, ce serait autour de 1 sur 23. En 2016. Tous ces chiffres sont terribles à nouveau.
Oui, parce que, encore une fois, depuis de longs mois, ces hommes, ces femmes, ces familles fuient les guerres, les persécutions, la misère. Et à chaque fois, il y a là la Méditerranée. Nous sommes dans cette conjonction qui fait qu'il y a à la fois ces situations qui se détériorent dans ces pays, la situation en Libye, l'action des passeurs. Et tout ça contribue à de nombreuses traversées, tentatives de traversées, avec une évolution que l'on a bien notée pendant l'année 2015, très longtemps, des traversées depuis la Turquie vers la Grèce. Je revoyais récemment encore un homme, M. Karkouche, qui est maintenant à Foix avec toute sa famille, que j'ai revu lors de nos journées portes ouvertes à l'OFPRA il y a quelques jours. Il est venu témoigner et il a redit ces quatre tentatives de traversée sur un radeau pneumatique. Et il disait, je n'avais jamais eu peur de ma vie. Et c'est un homme solide. Il avait une entreprise de céramique, c'est un potier à Alep. C'est un homme solide. Et il me disait ça, à chaque fois il me redit ça. Je n'ai jamais eu peur de ma vie, mais là, au moment où je voyais autour de moi les gens se noyer, j'ai eu une peur absolument terrible. Et donc nous sommes dans cette situation qui fait que longtemps cette traversée a eu lieu là, avec des personnes qui ont péri dans cette traversée, d'autres qui sont parvenus à arriver en Grèce. Et désormais, depuis que l'accord entre l'Union européenne et la Turquie est en vigueur, ces traversées ont lieu depuis la Libye vers l'Italie. Elles reprennent avec le printemps et le début de l'été, et avec des drames terribles, et ces navires qui arrivent, et comme je vous le disais, les officiers de protection qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle les hotspots, dans ces centres d'accueil en Sicile ou dans le sud de l'Italie, voient arriver ces navires avec un nombre considérable de personnes dans des conditions absolument effroyables, des personnes mortes à bord. Il y a donc ceux qui n'arrivent pas, il y a ceux qui arrivent et dans des conditions absolument terribles, et c'est donc dans ce contexte-là de crise de l'asile et de crise migratoire mêlée qu'il nous faut faire vivre le droit d'asile pour celles et ceux qui relèvent du droit d'asile. J'imagine qu'on pourra en reparler.
Anaïs Ginori.
Oui, ces personnes qui arrivent et qui affrontent cette traversée, ce risque au péril de leur vie, elles ne veulent souvent pas venir en Europe, venir en Italie, rester en Italie, mais elles veulent venir en Europe. Elles rêvent justement de cette Europe dont nous ne rêvons plus. Pour eux, c'est vraiment la terre promise. Et l'Italie est toute seule. Enfin, elle se plaint d'avoir beaucoup du poids de cet accueil, de faire face justement à cette urgence. Et où est la solidarité de l'Europe par rapport à ça? Comment l'Europe, la France, aide un pays qui, par sa limite, sa frontière géographique, se trouve en première ligne?
Je dirais que dans les premiers temps de cette crise, il y a un peu plus d'un an, c'était une solidarité européenne de l'indifférence. Il y a eu une véritable indifférence et je pense que nous en avons tous été très choqués parce que ces valeurs de l'asile et de l'accueil sont tellement intrinsèquement européennes qu'il y avait là un hiatus terrible. Et puis il y a eu une réponse difficile à élaborer par les conseils européens de l'année 2015 qui ont mis en place ce que l'on appelle les hotspots, notamment en Italie et en Grèce. Et puis il y a eu l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Je pense pour ma part que les réponses européennes ont été apportées au prix des plus grandes difficultés parce que vous le dites vous-même et on le voit bien dans l'ambiance européenne actuelle, il y a eu des tentations unilatérales de tous ordres. de l'Allemagne d'accueillir très massivement. Et j'étais avec les équipes de l'OFPRA en septembre 2015, à la demande du président de la République, à Munich pour accueillir. Et j'ai été, et nous sommes très admiratifs de ce que la société allemande a fait à ce moment-là. Mais ça n'en a pas duré. L'Italie, la Grèce ont été confrontés, vous le savez mieux que nous, vous le redites, confrontés à cette arrivée massive de personnes en situation dramatique sur les côtes grecques et italiennes. Et moi, j'ai la plus grande admiration pour ce qui est fait par les citoyens, les associations, les élus. Mais comme vous le dites vous-même, les migrants, et je le sais, parce que un nombre important d'entre eux, même si la plupart sont allés en Allemagne puis en Suède, viennent en France, 80 000 l'année dernière. Ils ne restent pas en Italie, ils ne restent pas en Grèce. Et donc, il y a une responsabilité partagée à mes yeux de tous les États membres de l'Union de mettre en place cette capacité à agir d'abord sur la situation dans les pays d'origine. Parce que c'est d'abord la question qui est posée. Pourquoi est-ce que les gens partent? Pour des raisons de conflits, de persécutions, des raisons économiques. Agir sur notre capacité à accueillir dans ce qu'on appelle les hotspots en Grèce et en Italie pour mettre en œuvre le droit d'asile pour celles et ceux qui relèvent du droit d'asile à travers une instruction de la demande d'asile. Et en revanche, en fonction de ce qu'est ou n'est pas la politique migratoire européenne, une reconduite de celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile. Et je peux m'expliquer des raisons pour lesquelles je crois fondamentalement à cette distinction de celles et ceux qui relèvent de l'asile et de celles et ceux qui n'en relèvent pas. Et je suis d'accord avec vous que l'Europe a tardé. Je crois que l'Europe a fini par prendre les bonnes décisions, mais elles ne sont qu'imparfaitement mises en œuvre. Et pendant ce temps-là, les drames continuent. L'un des éléments clés de la réponse, c'est notamment ce qu'on appelle la réinstallation. L'OFPRA conduit depuis 2 ans des missions avec le HCR au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Turquie, de manière à pouvoir protéger des personnes, notamment syriennes, pour les réinstaller en Europe. Il existe ce qu'on appelle les programmes de relocalisation.
Mais c'est très en arrière, ça c'était la grande promesse de solidarité qui a été faite suite à la crise de l'été dernier. Et les relocalisés, venant par exemple d'Italie, sont très peu, je crois que c'est moins de 2000,
mais y a une explication
quelques centaines.
Il y a une explication à cela, c'est que dans un premier temps, et je peux vous dire que l'OFPRA comme d'autres est très mobilisé pour mettre en œuvre ces programmes. Je vous le disais, nous avons des équipes à la fois en Grèce et en Italie à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que ces programmes de relocalisation, redisons qu'il s'agit en France d'accueillir 32 000 personnes en plus pendant 2 ans. C'est à la fois peu et en même temps c'est une participation à cet effort d'accueil et dans cette solidarité européenne que vous appelez très justement de vos voeux. La difficulté est que très longtemps, pendant de longs mois, les migrants n'ont pas souhaité entrer dans ce dispositif parce qu'ils partaient directement en Allemagne. Et ça n'est en Grèce que depuis l'accord avec la Turquie, dont on pourrait reparler, mais pas encore en Italie, crée très imparfaitement que les personnes entrent dans ce dispositif parce que pour l'instant, depuis l'Italie, elles continuent à aller vers l'Allemagne. Et donc, il y a une responsabilité des États membres qui est d'accueillir. Il y a une responsabilité aussi de chacun de mettre en œuvre ces dispositifs de manière à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions. Parce que je voudrais terminer sur ce point. Je crois pour ma part à l'accueil organisé et maîtrisé. Je suis convaincu que dans la situation qui est celle de l'Europe, politique, économique et sociale, si nous voulons, et évidemment c'est la raison d'être de l'OFPRA, faire grandir cet accueil des réfugiés, il faut le faire dans l'organisation et la maîtrise, parce que sinon, nous voyons ce qui est arrivé dans certains États membres, il n'y a pas de durabilité de l'accueil. Or moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions durablement faire vivre cet accueil des réfugiés.
Alors, organiser et maîtriser cet accueil, c'est précisément la mission de l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que vous dirigez, Pascal Brice. Peut-être restons un moment sur cet organisme. Qui le gère? Comment est-il organisé? Quelle structure juridique? Et puisqu'il s'agit de votre compétence, parlons un petit peu des chiffres qui concernent l'OFPRA. Peut-être pour commencer sur cette agence.
L'OFPRA est une agence, un établissement public qui a 60 ans d'âge, comme la Convention de Genève, qui protège les réfugiés, et dont la mission fondamentale est de statuer sur les demandes d'asile. Nous sommes aussi la mairie des réfugiés, c'est-à-dire celles et ceux qui sont reconnus réfugiés, bien puisqu'ils ne peuvent
pas... La mairie ou le consulat, selon
vous. Le consulat ou la mairie, absolument. Nous suivons leur vie civile, leur état civil, leur mariage, leur naissance, leur décès, jusqu'à leur retour dans leur pays d'origine ou leur naturalisation. Mais l'essentiel, c'est l'instruction de la demande d'asile.
Combien de demandes d'asile par an vous devez gérer?
L'année dernière, 80 000.
C'est plus que l'année d'avant?
C'est 15% de plus qu'en 2014, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase de reprise de la demande d'asile en France.
Donc 80 000 par an.
80 000 par an.
Combien de premiers, de ce qu'on appelle des premières demandes, c'est-à-dire des gens qui le font pour la première fois et n'ont pas des dossiers retraités?
Ce sont à peu près 75 000 premières demandes d'asile. Donc ce sont pour l'essentiel les premières demandes d'asile. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que ce sont désormais en France 35% des demandeurs d'asile qui se voient reconnaître un statut. Réfugié ou protection subsidiaire, qui est un statut proche. Et surtout, c'est une révolution que nous avons menée à bien en 3 ans à l'OFPRA. Nous avons mis à une anomalie française qui voulait que ce soit le juge administratif en appel qui reconnaissait le plus grand nombre de protections. C'est terminé, ça. C'est l'OFPRA qui est désormais l'autorité principale de reconnaissance des statuts. 80 000 demandeurs d'asile, près de 30 000 personnes reconnues réfugiées en France l'année dernière, 30% de plus qu'en 2014. Nous sommes donc de ce point de vue-là dans ces progrès, même si ça n'a rien à voir avec l'effort et la qualité de l'accueil qui a été conduit en Allemagne. Disons 1 million en Allemagne en 2015, 80 000 en France, mais ce sont 80 000 personnes
viennent,
et cela progresse.
Ils viennent d'où ? Quelles sont les nationalités d'origine par
Alors nous constatons une évolution qui est évidemment liée à ces drames dont nous parlions. C'est-à-dire que la grande nouveauté en France depuis un an et demi à peu près, c'est que désormais la première nationalité qui demande l'asile en France, ce sont les Soudanais. Très lié à la situation de Calais sur laquelle on pourra revenir, puisque vous le savez sans doute, nous avons engagé une action volontariste à Calais pour, au fond, aller convaincre les personnes de demander l'asile. Et ce sont principalement des Soudanais, comme d'ailleurs les milliers de personnes.
Ils sont combien à peu près sur...
Ils sont à peu près 5000 personnes, 5000 Soudanais à avoir demandé l'asile en France l'année dernière. Puis ensuite les Syriens. Les Syriens, à peu près 5000 également. Depuis le début de cette terrible guerre en Syrie, chaque année, le nombre des demandeurs d'asile syriens en France double. Ce sont au total un peu plus de 10 000 Syriens qui ont demandé l'asile en France depuis 2011. On pourrait citer Madame Yazbek, par exemple, qui vient de publier un très beau livre. Elle a été protégée par l'OFPRA. Et puis, vous trouvez également une très forte progression des demandes d'asile en provenance d'Irak, les minorités yézides et chrétiennes d'Irak. Que nous protégeons, également les Érythréens, au vu de la dictature qui sévit dans ce pays. Ce sont au cours de ces derniers mois, en raison de la situation internationale, évidemment les Afghans, qui sont maintenant...
Des Kosovars, des Bangladais...
Alors, et puis par ailleurs, vous avez des demandes d'asile qui, elles, relèvent in fine assez peu de protection. C'est le cas des Haïtiens importants en nombre, notamment à la Guyane et à la Guadeloupe. C'est le cas des Kosovars et des Albanais. Et de quelques autres nationalités. L'évolution marquante, c'est qu'au fond, on le voit à travers le triplement du taux d'accord de l'OFPRA en 3 ans, c'est que arrivent de plus en plus des personnes qui, in fine, relèvent du droit d'asile, même si je redis que ceci ne peut être établi qu'à l'issue de l'instruction individuelle. Chaque demandeur d'asile en France a le droit à voir sa demande d'asile instruite par l'OFPRA. C'est seulement après cette instruction que l'on peut déterminer s'il relève ou non du droit d'asile.
Pierre Aski.
Comment expliquez-vous le décalage, malgré tout, entre le pourcentage de gens qui sont reconnus sur les demandeurs en France et la moyenne européenne? Je crois qu'on est quand même à peu près 20 points en dessous de la moyenne européenne.
Alors, il s'explique assez aisément, qui est pour la raison suivante. Lorsque vous regardez le taux de protection par grande nationalité dans les grands pays européens d'asile, vous prenez par exemple les Syriens, protégés à 97% en France comme en Allemagne ou ailleurs en Europe. Les Afghans, 80% en France, un peu moins ailleurs en Europe. Les Érythréens, lorsqu'ils sont considérés comme Érythréens, près de 100% en France comme ailleurs en Europe. Donc au fond, par grande nationalité d'origine, les taux de protection sont les mêmes. Ce qui fait la différence, par exemple, 42% de taux global en Allemagne, 35% en France. C'est qu'en fait, vous avez en Allemagne beaucoup plus de personnes relevant de niveaux de protection très élevés. 10 fois plus de Syriens en Allemagne qu'en France. Pas d'Haïtiens. Beaucoup plus de Somaliens en Suède. C'est donc ceci qui explique que le taux global soit différent, mais en réalité, les niveaux de protection et la doctrine de protection est la même en France, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique et dans quelques autres grands pays d'asile.
Mais en même temps, dans les nationalités les plus menacées dont vous parliez, il y a cette rumeur qui a circulé l'année dernière qu'il ne faut surtout pas aller en France. C'est-à-dire que la France a donné l'image d'un pays qui n'était pas un pays d'accueil.
C'est une rumeur, on pourrait y revenir longuement parce qu'il se trouve que j'ai été longtemps confronté à cela. Et cette rumeur est née notamment lors de notre mission à Munich, dont je parlais à l'automne 2015. Et elle est d'ailleurs notamment venue de journalistes. Et qui, en fait, à mon avis, ont commis une petite erreur d'optique. Ça arrive à tout le monde, j'en fais aussi, souvent, sans doute. Qui était d'oublier de constater qu'en réalité, ces hommes et ces femmes et ces familles, pendant tous ces mois, souhaitaient aller dans un pays, l'Allemagne. Éventuellement dans un autre pays, jusqu'à ce que s'il se ferme, la Suède. Et puis éventuellement dans un troisième, la Grande-Bretagne, et notamment se retrouver à Calais. C'était donc un choix d'aller dans ces pays. Pourquoi ? Parce que les compatriotes s'y trouvent. Et nous savons tous qu'on va d'abord là, dans l'exil, dans ces trames de l'exil, dans ces parcours chaotiques, là où sont les proches. Parce que l'emploi s'y trouve. Et donc, il y a eu un débat en France que moi, j'ai trouvé un peu narcissique. Et je ne le mets pas dans votre propos. Je me regarde dans le regard du réfugié. Avec d'ailleurs ce paradoxe qui fait qu'à la fois, on regrette qu'il ne vienne pas, tout en se disant qu'il ne vient pas. Enfin, tout ça un peu paradoxal. Pour moi, les choses sont simples. Ces personnes voulaient continuer à vouloir aller en Allemagne. Et vous avez 80 000 personnes qui sont venues en France l'année dernière, 15% de plus que l'année passée. Et nous sommes dans ces efforts afin de mieux accueillir les demandeurs d'asile et les réfugiés dans notre pays.
Pascal Brice est directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides. On parle ce soir des réfugiés, on parlera tout à l'heure des questions numériques et culturelles liées aux réfugiés. Vous pouvez intervenir, vous pouvez poser vos questions à Pascal Brice sur les réseaux sociaux au hashtag SoftPower, émission jusqu'à 20h en direct. Instant Burn the Witch, extrait du nouvel album de Radiohead. Superbe, comme souvent Radiohead, dont le chanteur Thom Yorke a fait parler de lui ce week-end en relayant une pétition pour l'organisation d'un second référendum sur le Brexit. Pétition qui a déjà recueilli plus de 3 millions de signatures et pourrait donc être discutée par le Parlement britannique. Vous écoutez Soft Power jusqu'à 20h, magazine des industries créatives numériques de France Culture. Vous pouvez vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr ou sur iTunes.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons le testament numérique avec vous, Pierre Aski. Que se passe-t-il sur internet quand on meurt? Comment la vie numérique continue ou pas? Est-ce qu'on continue à exister sur les réseaux sociaux? Comment fermer ses comptes et conserver les musiques, par exemple, ou les livres à acheter? Faut-il faire un testament digital? Faut-il un droit à l'oubli pour les personnes décédées? Autant de questions qui peuvent paraître futiles, mais qui concernent déjà des millions de personnes décédées. Et c'est un des sujets qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale dans la loi numérique. Pierre Aski, plusieurs questions se posent, et d'abord celle de la vie numérique qui continue après la mort.
Oui, tout à fait. En fait, le sujet est venu parce que progressivement, on s'est rendu compte que notre vie numérique continuait après la disparition de proches. On a tous reçu des avis d'anniversaire de comptes Facebook de la part de gens qui étaient disparus. Et il y a eu même des cas qui sont allés jusque dans les tribunaux où des parents voulaient récupérer les mots de passe de comptes de leurs enfants ou de conjoints, etc. Et donc la question s'est posée à la fois aux États qui qui sont, notamment en France, garants d'un certain nombre de droits individuels, mais aussi aux grandes plateformes comme Facebook, Twitter, Google, iTunes, etc. Spotify.
Donc c'est la question, est-ce qu'on peut prendre la main sur le compte du défunt? Peut-on transférer aussi? Faut-il les fermer? Toutes ces questions se posent.
Elles se posent et elles se posent. Alors, vous l'avez dit, le projet de loi d'Axel Le Maire sur la République numérique est en discussion en ce moment au Parlement. Et on voit deux écoles dans la discussion. L'une qui est effectivement de donner l'accès aux proches pour gérer cette après-vie
comme
numérique.
Les biens habituels, et ça c'est la version du Sénat, disons.
Exactement. Et l'autre, qui est au contraire celle du droit à l'oubli, c'est-à-dire que l'individu qui n'a pas donné de consignes ou de testament numérique, est-ce que nécessairement toutes ces données doivent être accessibles?
Là, c'est plutôt la version
ça, c'est
de l'Assemblée nationale.
Pour l'instant, ça n'a pas tranché, mais la CNIL, qui est garante en France des libertés numériques, dit que sur son site, qu'un héritier ne peut pas, sur le seul fondement de la loi informatique et liberté, avoir accès aux données d'un défunt. Donc, et plutôt du côté droit à l'oubli, donc droit de la personne à préserver son intégrité numérique après son décès.
N'oublions pas qu'il y a beaucoup de choses vraiment très privées, personnelles, y compris que les parents ou le conjoint n'a pas à savoir sur les échanges Facebook, Google, etc.
Tout à fait.
Dans les emails.
Et c'est là que les plateformes ont défini leur politique. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a presque autant de doctrines que de grandes plateformes. Alors Facebook est la plus exposée parce que c'est la plus importante, près d'un milliard et demi de comptes dans la planète. On dit même, je ne sais pas si le chiffre est exact, qu'il y a trois détenteurs de comptes Facebook qui meurent par minute. Donc c'est quand même un véritable enjeu. Et Facebook a défini sa doctrine avec la possibilité de transformer un compte en sanctuaire, en mémorial après le décès.
Ce qu'on appelle les comptes de commémoration.
Exactement, les comptes de commémoration. Et donc vous pouvez donner le droit à un de vos proches de gérer ce compte après votre disparition, qui est une manière aussi de faire un deuil collectif en famille. Et il y a même la possibilité, ça c'est quand même extravagant quand on y pense, mais à la personne qui détient le compte d'un défunt, de changer la photo de profil, par exemple. Imaginez que vous ayez mis une photo de poisson pour rigoler puis que vous disparaissez le lendemain. Le détenteur de votre compte, après votre décès, peut y mettre une photo plus digne.
C'est pas juste théorique, parce qu'il y a une certaine Anna Sergeva qui, le 19 mars, a mis une photo d'elle-même un peu rigolote, en train de prendre l'avion, et le crash a eu lieu de cet avion en Russie quelques minutes après, et tout le débat a été de savoir si cette photo pouvait ou pas rester. Alors autre question qui concerne ce coup-ci Google, parce que Google a tout prévu. Google s'occupe de notre vie, de notre naissance, désormais au-delà de la mort, puisqu'il s'occupe même de notre sort au-delà du décès, avec notamment un inactive account manager.
Voilà,
qui permet
un gestionnaire de compte inactif en bon français, qui permet de définir une période d'inactivité du site qui signifie que vous êtes mort. En gros, vous définissez que si votre compte reste inactif pendant 6 mois, il y a toutes les chances que vous soyez décédé. Et dans ce cas-là, Google vérifie, vous envoie un SMS ou un mail à l'adresse de contact que vous avez laissée, et sans réponse, dans ce cas-là, il suit vos instructions qui peuvent être la disparition complète de vos données. Vous pouvez donner comme instruction qu'on efface tout, ou alors le nom de la personne qui sera votre exécuteur testamentaire numérique et qui pourra disposer de tous vos comptes et en faire effectivement, y compris récupérer les photos et vos mails qui sont toujours disponibles.
Alors, donc, première priorité paramétrée. Deuxième question, est-ce qu'il faut faire un testament digital, notamment pour des choses peut-être moins importantes, mais malgré tout, qui concernent de la propriété, à savoir des bibliothèques Kindle, iTunes, on a acheté des morceaux de musique, on a acheté des livres, des bitcoins, des noms de domaines, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment est-ce qu'il faut les gérer? Est-ce qu'il faut faire un testament digital?
Oui, c'est pour ça que le sujet est plus qu'anecdotique, parce qu'on parle certes des photos Facebook, etc., mais on parle aussi là de biens qui ont pu être achetés, donc des livres, de la musique, des bitcoins, un compte PayPal, donc des choses qui commencent et qui, commenceront à avoir de la valeur. Alors, on se rend compte à cette occasion que ce qu'on achète, on n'en est pas véritablement propriétaire. Ce qu'on achète, c'est un droit d'usage. usage.
Comme si c'était un abonnement, mais on ne peut pas transférer.
Exactement. Vous ne pouvez pas transférer un livre ou un morceau de musique à un tiers, contrairement à un livre ou un CD des biens physiques. Et en particulier, Amazon, qui a été sollicité depuis des années et qui a défini sa doctrine, permet de donner de faire passer le compte à un exécuteur testamentaire qui aura accès à vos livres, qui aura accès à votre bibliothèque. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, diviser votre bibliothèque en deux en disant je donne les polars à mon neveu.
Comme
qui
on aurait fait
les polars,
pour des livres physiques.
Et les livres de philo à mon.
Tout ça parce que ces comptes sont liés à des cartes bleues aussi uniques.
Exactement. Et en plus, l'exécutant testamentaire ne peut pas en disposer autrement que de lire ses livres, mais il ne peut rien en faire d'autre.
Alors, il existe aussi, pour terminer, Pierre Aski, des applications pour donner vos dernières volontés, notamment Last Will, Eternim, Now Say It, pour parler à ses proches, par exemple, avec les dernières images, les derniers mots qu'on a voulu. Donc là, c'est toute une économie de start-up qui se met en place.
C'est un vrai business qui s'est mis en place. Je suis allé voir, par exemple, un site qui s'appelle plandeparture.com, qui est un site
dans le titre
britannique, qui est formidable. Alors, c'est payant, c'est-à-dire que vous pouvez payer soit l'équivalent à peu près de 50 euros jusqu'à votre mort, soit payer d'un seul coup, si vous pensez que votre espérance de vie est plus grande, 500 euros d'un seul coup. Et là, vous avez droit à des services qui, je reprends leur slogan, vous permettent de laisser une mémoire et pas le bordel. C'est-à-dire que vous pouvez organiser complètement votre univers numérique et il vous assure la simplicité, l'assurance que l'information ne se perd pas, la sécurité et la tranquillité d'esprit. Vous pouvez même laisser un message enregistré que vos proches découvriront après votre décès. Vous pouvez programmer des envois d'e-mails pour annoncer votre décès à votre carnet d'adresse. Enfin bref, tout un tas de services à la carte qui vous permettront de gérer votre disparition et surtout de la faire en douceur. Et un dernier mot sur le site de Notre Temps, qui est le site du troisième âge en France et qui s'est énormément intéressé à la question. Il y a un conseil. Si vous n'avez pas envie que vos proches aient accès à des informations privées à votre décès, faites régulièrement le ménage dans votre boîte mail. Et ça prouve qu'il n'y a pas que les ados sur Snapchat qui ont des choses à cacher.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux au mot-clé Soft Power. On a mis tous les liens avec les sites, les articles sur ces sujets. Sur la page de France Culture, de l'émission Soft Power sur le site franceculture.fr. Vous pouvez également vous abonner au podcast Soft Power sur le site franceculture.fr également. Pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, vous pouvez consulter notre page alphabetnumérique.com.
Courageous father and his chubby pup of a son. It's called The Legend of the Last Lava Pup. There were once two warring clans, the Barbarian Party and the Immortals. Immortals? The fighting had taken a toll on the Barbarian Party, but they had one last hope, the brave and fiery Lava Hound.
The whole army looked up to the Lava Hound.
They sure did.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Christoph Waltz, l'acteur de Tarantino, dans Clash of Clans, le jeu vidéo du groupe finlandais Supercell. Supercell est l'un des leaders européens du jeu vidéo et il vient d'être racheté par le chinois Tencent. On avait vu partir avec tristesse ces dernières années le français Price Minister, qui avait été avalé par les Japonais. Nokia, Mythic et Skype, autre groupe européen qui avait été racheté par les Américains. C'est au tour donc cette semaine du finlandais Supercell d'être mangé par l'ogre chinois. Le chèque est quand même de 8,6 milliards de dollars. Supercell avait déjà préalablement été en partie vendu aux Japonais, qui cèdent donc leur part aux Chinois de Tencent. Alors peut-être qu'un jour, il faudra que l'Europe, si elle veut continuer à être aimée par le peuple européen, dans l'après-Brexit, sache protéger ses pépites et défendre un patriotisme européen et une politique industrielle européenne qui semble faire tellement défaut aujourd'hui. Pierre Aski, sur ce sujet, vous êtes ancien correspondant de Libération en Chine. Tencent, qui vient donc de racheter Supercell, c'est quoi?
Alors Tencent n'est pas très connu internationalement, pas autant que Alibaba par exemple de Jack Ma qui est l'entreprise chinoise.
Mais c'est pourtant connu de beaucoup de Chinois. Oui.
Mais c'est énorme, c'est-à-dire que Tencent est dans la catégorie des Google, Amazon ou Alibaba, c'est-à-dire avec des capitalisations boursières de plusieurs centaines de milliards de dollars. Tencent a deux produits phares qui font que tous les Chinois l'utilisent aujourd'hui, et notamment WeChat, qui est le réseau social numéro un en Chine, avec 760 millions d'utilisateurs.
Un équivalent de WhatsApp, en fait.
Qui est l'équivalent, en plus de WhatsApp, parce que c'est tout à la fois, c'est la vie quotidienne des Chinois qui passe à 100% par WeChat.
Qu'on appelle Weixin en chinois.
Weixin en chinois. Tencent, c'est une société qui a été créée en 1998, qui a eu des débuts très difficiles, à tel point qu'elle est allée chercher un financier sud-africain pour la renflouer au début des années 2000. Et ce sud-africain, c'est une histoire extraordinaire, c'est l'ancien éditeur des journaux de l'apartheid qui s'est réinventer une vie après la victoire de Mandela, est aujourd'hui encore actionnaire à 34% de Tencent. Donc c'est quand même une pirouette extraordinaire. Et Tencent a une activité majeure qui lui rapporte aujourd'hui de l'argent, ce sont les jeux vidéo. C'est la troisième acquisition majeure dans le monde faite par Tencent. On sait que les Chinois sont dingues de jeux vidéo en ligne. Et surtout, Supercell est très bien placé pour les jeux sur mobile, qui sont aujourd'hui évidemment le segment qui intéresse tout le monde.
Tencent a une part dans Activision, qui édite Call of Duty, et possède déjà le studio américain, en effet, Riot Games, qui édite League of Legends. Rappelons aussi que Tencent, c'est un portail de type Yahoo, qu'il a aussi le Twitter, un des Twitter chinois, le Tencent Weibo, et puis MSN, le MSN chinois, QQ. Ça fait beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup de choses. Ils ont aussi les droits de distribution de HBO, par exemple, en Chine.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Seconde partie de cette émission, mon invité ce soir est Pascal Brice, le directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Avec nous également en studio ce soir, Barnabé Louche, directeur des partenariats de Bibliothèques sans frontières, Naïs Ginori pour la Repubblica et Pierre Aski de Rue 89. On a évoqué un certain nombre d'éléments, je dirais généraux, concernant les réfugiés, le nombre d'asile, le demandeur d'asile, de quelle nationalité ils sont, où est-ce qu'ils vont, Pascal Brice. On va s'intéresser dans deuxième partie de cette émission à la langue, à la culture, au numérique. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut déposer un dossier? Est-ce qu'on a un compte personnel numérique lorsqu'on est un réfugié?
Pas encore, mais c'est un projet que nous avons, que de faire la révolution numérique de l'OFPRA, que nous avons engagé. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore une démarche d'abord en préfecture, puis l'on envoie un dossier écrit à l'OFPRA, qui est ensuite numérisé au sein de l'OFPRA. Et donc notre intention est d'aller au bout de cette numérisation-là et notamment de faire en sorte que chaque demandeur d'asile et que chaque réfugié puisse avoir un compte personnel lui permettant de savoir exactement où en est l'état de sa procédure, parce que tout ceci est un véritable parcours du combattant. Pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés en France, pour celles et ceux citoyens français qui les accompagnent, une véritable complexité. Et donc je suis convaincu que la numérisation doit nous permettre d'aller plus vite dans la réduction des délais d'instruction, qui est l'un de nos grands objectifs que nous avons engagés, mais également dans la simplification et la bonne information des demandeurs d'asile. Parce que vous savez, je suis frappé chaque fois que je vais dans des camps de réfugiés, que ce soit à Calais, à Grande-Synthe, c'était le cas à Munich, en Grèce, en Italie, au Liban. Le point central, le point où d'ailleurs nous pouvons nous le plus facilement échanger avec ces personnes, c'est le lieu où se rechargent les téléphones portables. Et c'est là que le lieu de l'échange, de l'information se fait. Je peux vous dire que c'est directement là que nous allons pour pouvoir échanger le plus facilement avec ces personnes.
Toujours sur cette question Internet, numérique, il y a un portrait cette semaine, un article terrible dans le New York Times de jeunes exilés égyptiens qui postent sur les réseaux sociaux un reflet très infidèle de leur vie de réfugiés dans les pays d'accueil, avec de l'argent, des filles, de nouveaux baskets et justement des iPhones dernier cri. En réalité, derrière se cache très souvent une misère dont ils ne parlent pas à leurs proches, à leur famille, à leurs amis, exploitation, travail non déclaré, vol, drogue et parfois la prison. Les réseaux sociaux qui reflètent donc une image très fausse de leur réalité, de leur vie quotidienne.
En réalité, là, les réseaux sociaux amplifient de manière démesurée des phénomènes que nous connaissions tous. Lorsque ces personnes partent, elles portent avec elles leurs espoirs, mais aussi celles de leur famille, de leur village, de leur quartier. Et bien souvent, à l'arrivée, lorsque les choses, hélas, ne se passent pas très bien, l'image qui est renvoyée n'est pas celle de la réalité. C'est un phénomène ancien, il est démultiplié par Internet et par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'image qui est donnée est celle de la réussite, y compris lorsque ce qui attend les personnes, c'est l'errance, la difficulté, les violences, le chômage, ou parfois le retour dans le pays d'origine.
Canek Sanchez Guevara était un punk cubain, musicien, photographe, anarchiste. Il est mort l'an dernier au Mexique. Il a publié un seul roman, 33 révolutions, qui sera publié en français aux éditions Métellier fin août, dans quelques semaines. Donc ce livre est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que Canek Sanchez Guevara n'est autre que le petit-fils du Che, le fils de Hildita, la première fille de Che Guevara. Son roman mélancolique sur l'échec de la révolution cubaine a déjà eu un large succès en Amérique latine et il nous interpelle donc aussi. Ensuite, c'est un court roman qui parle des réfugiés. L'immense exode des Cubains de l'île n'épouse pas forcément les mêmes logiques que celui des Soudanais, des Syriens ou des Kosovars qui échouent sur les plages ou les routes européennes, mais les raisons de l'exil, les drames des réfugiés se ressemblent toutefois. Je vous propose ce soir deux extraits de ce livre pour illustrer par la littérature cette émission consacrée aux réfugiés. Deux extraits de 33 révolutions, lus par Mathilde Wagman.
Santa Maria, le sable brûlant, les disques rayés en bikini ou en bermuda. Il observe un groupe de jeunes gens qui regardent vers la mer avec un mélange de fatalisme et d'anxiété. Le lointain paraît si loin vu d'ici. Il fait une chaleur criminelle. Soudain apparaît un groupe de jeunes gens portant un étrange objet, à mi-chemin entre un ready-made et une armoire cassée. Ils sont 6 ou 7 à le porter. Ils mettent la chose à l'eau pour monter dessus. Le spectacle attire une horde de curieux. « Vous partez ? On se casse. Droit vers les States. Bon voyage, messieurs. Merde, emmenez-moi, soyez pas chiens. » L'engin flotte par miracle. En lançant des eureka, il se dirige vers le large, en ramant avec des manches à balai. Tout est rustique, le radeau, les rames, l'équipage, le pays. Les curieux font un boucan de tous les diables. Certains sourient, d'autres ont l'air soucieux. Et il finit par s'approcher, lui aussi, avec inquiétude et envie. Il y a toujours eu des fous pour se jeter à la mer sur d'inconcevables radeaux. Ce qui est inconcevable maintenant, c'est que cela se produise en plein jour.
Que cela se produise en plein jour. Un extrait du roman à paraître fin août, 33 révolutions de Canek Sanchez Guevara. Pascal Brice, on reviendra sur ce sujet, mais vous êtes le directeur de l'OFRA, l'Office des réfugiés en France. Les bateaux de fortune qui flottent par miracle, on rame avec des manches à balai. Ces images qui sont des réalités quotidiennes en Europe sont elles aussi terribles.
Oui, ces images, je les ai moi-même très précisément à l'esprit, à Lesbos. Lorsque je m'y suis rendu à l'automne, on voit sur les plages des gilets. Deux jours. Je pensais aujourd'hui que c'est même deux jours maintenant que les migrants à Calais tentent le passage, alors que c'était jusqu'alors la nuit. Tout simplement parce que le plus souvent, c'est le désespoir qui est à l'œuvre. Et ces mots de l'exil. Et puis après, il y a celles et ceux qui arrivent. Je veux aussi parler de toutes celles et ceux qui arrivent et que nous accueillons et qui retrouvent une nouvelle vie, aussi normal que possible. Je pensais, en venant à votre émission, à Paco Ibáñez, que j'ai eu la chance de rencontrer à Barcelone. Et lui, c'est un exil tel qu'il était en exil en France longtemps. Vous savez, il a son dossier à l'OFPRA. Il est venu le voir à l'OFPRA. Et il connaît maintenant la France mieux que vous et moi réunis. Et donc, il y a aussi dans l'exil, il y a cette part de ce qui ne sera jamais retrouvé. Je pense aux phrases de Stephen Zweig. Lors de son exil au Brésil, peu avant son suicide. Et puis il y a en même temps cette capacité à retrouver, souvent à travers la culture, une vie aussi normale que possible.
France Culture, 19h44 en direct. C'est Soft Power ce soir, émission consacrée aux réfugiés. Avec nous Barnabé Louche, directeur des partenariats de Bibliothèques sans frontières. Bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Bibliothèques sans frontières, c'est une association qui a été créée par Patrick Veil, qu'il préside toujours. Vous mettez à disposition et vous rendez possible un accès à un certain nombre d'outils que vous déployez avec des caisses et des mallettes. Comment ça marche exactement, l'Idea Box qui a rendu l'association célèbre aujourd'hui dans les camps de réfugiés?
Tout d'abord, pour revenir sur un chiffre marquant aujourd'hui pour les réfugiés, savez-vous combien de temps un réfugié reste dans un camp, Frédéric?
Ça dépend sans doute du camp, mais...
Un réfugié, aujourd'hui, il y en a plus de 65 millions dans le monde, il reste en moyenne 17 ans.
65 millions, ça veut dire plus que la France, quoi.
Plus que la France, il reste en moyenne 17 ans. 17 ans sans rien faire, dans des prisons à ciel ouvert, où ils ne peuvent pas travailler et livrer à eux-mêmes. C'est ce qui nous a poussé à agir à Bibliothèques sans frontières, de créer un dispositif d'accès à la culture, à l'information, à l'éducation, un dispositif mobile,
numérique aussi. Hein.
Un dispositif où il y a des livres, il y a des jeux de société, mais il y a aussi des tablettes, des ordinateurs, une télé pour avoir des ressources documentaires qui permettent de pouvoir avoir accès à l'information à la fois dans les hotspots dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi de pouvoir apprendre une nouvelle langue ou tout simplement apprendre.
Alors vous êtes installé notamment dans un camp de réfugiés, on en parlait à l'instant, essentiellement pour des Syriens à Lesbos, en Grèce. Donc là, ce sont des valises, ce sont des caisses qui permettent de se déployer sur une centaine de mètres à peu près, c'est ça ?
L'Ideas Box est une médiathèque en kit qui tient sur deux palettes, qui est fait de quatre gros cubes, un module cinéma, un module numérique, un module bibliothèque, qui permet en fait de déployer un espace sur 100 mètres carrés pour apprendre, créer des contenus, témoigner. Nous sommes à Lesbos et nous avons réfléchi sur notre présence ou pas à Lesbos d'ailleurs, parce que avec l'accord UE-Turquie, évidemment, un certain nombre de nous travaillons auprès des mineurs à Lesbos et il est important de rappeler que ces mineurs-là sont dans une prison aussi à ciel ouvert et prisonniers depuis quelques mois et sont dans l'attente en fait de décisions politiques.
Bon, ça leur permet aussi de rentrer en contact avec leur famille.
Ça leur permet de se connecter, de rentrer en contact avec leur famille, mais aussi de pouvoir témoigner de la situation.
Vous êtes installé où ? Où sont les autres Ideas Box ?
Ideas Box, sur la crise syrienne, nous sommes installés en Jordanie, au Liban, en Grèce, à Athènes, à Lesbos, nous installons très prochainement à Düsseldorf, mais aussi en France, ce week-end même, nous formons un certain nombre de personnes de la Croix-Rouge à Grande-Synthe.
Et nous sommes, c'est près de la jungle de Calais, c'est ça ?
Et nous sommes à Paris, dans un centre d'hébergement d'urgence, dans le lycée désaffecté Jean Carré.
Qui est-ce qui vous finance ?
Nous sommes financés à 70% par des structures privées. Nous avons d'ailleurs été lauréats du Google Impact Challenge l'année dernière, mais la fondation Pierre Bellon ou la fondation Alexander Soros nous financent. Et nous avons aussi été lauréats, pour le coup, par le président de la République de la France s'engage, qui nous permet aussi de déployer nos Ideas Box et de permettre d'industrialiser, car l'ONU et d'autres structures nous en demandent des dizaines et nous devons faire face à cet essaimage.
Pour l'instant, d'une certaine manière, ça reste un outil en développement, donc il est assez cher. Ça coûte combien ?
Aujourd'hui, une Ideas Box coûte 45 000 euros. Je crois que quand on a dit que l'ennui était la principale maladie, en fait, dans les camps de réfugiés. Je crois que les gens ont besoin de se reconstruire, de pouvoir se projeter. Ils sont déracinés et quoi de mieux que de la culture, que d'apprendre, que de s'évader et de créer un espace de normalité, notamment pour les enfants.
En même temps, quand 45 000 euros, quand vous êtes dans des camps, on a besoin de beaucoup de choses. C'est pas beaucoup d'argent.
C'est très peu en vérité et tout l'enjeu aussi c'est la médiation qu'on y fait autour. Certes, il faut immédiatement se soigner, manger, avoir un toit, mais aujourd'hui ce qui est très important c'est de travailler sur la résilience au sein des communautés, encore une fois protéger l'enfant, renforcer l'éducation et c'est des enjeux très importants pour ces 65 millions de réfugiés, l'équivalent de la France comme vous l'avez dit.
Barnabé Louche, directeur des partenariats pour Bibliothèques sans frontières.
Des familles entières disparaissent en mer. Les statistiques sont un sujet de conversation. Des semaines et des semaines à observer la ville se vider. Pas un seul jour sans qu'il apprenne le départ d'un ami ou d'une connaissance. Un bruit, un claquement, et le cycle recommence. Il ne dort pas, l'heure approche. L'orage frappe le littoral, les vagues se dressent contre le mur. Il s'installe à la cuisine avec une demi-bouteille de rhum à la lumière d'une bougie. Les heures ne passent pas, le temps stagne. Il prend son sac à dos, rempli de négatifs et de rouleaux non développés. Il s'enveloppe dans un imperméable et protège l'appareil avec un sac plastique. Il sort. Il trouve les autres en train de préparer le canot, de régler les derniers détails. C'est un engin en bois de 5 mètres sur 2, avec des bidons d'essence comme flotteur et un moteur hors-bord récupéré sur une machine à laver russe. Il n'y a que nous pour oser appeler canot une merde pareille, se dit-il. Il charge les provisions, de l'eau, du pain dur, des compotes volées on ne sait où. Tout est prêt. Il se lance. La mer est attirante comme l'infini.
À l'instant, un extrait lu par Mathilde Wagman du roman apparaître fin août, 33 révolutions de Kenneck Sanchez Guevara. Nous sommes jusqu'à 20h avec Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Avec nous, Barnabé Louche, Bibliothèque sans frontières, Anaïs Ginori de La Repubblica et Pierre Inski de rue 89. Une question d'Anaïs Ginori.
Oui, dans le débat entre la France et l'Allemagne, dans les deux différentes réactions face à la crise des réfugiés, il y a une question très simple et cruciale. Si l'asile politique est un droit, comme c'est un droit, vous le rappeliez, la Convention de Genève, comment peut-on limiter un droit en parlant de chiffres maximum, 30 000, 20 000 et pourquoi pas 1 million comme a fait l'Allemagne ?
C'est la raison pour laquelle le Premier ministre français à l'époque avait refusé de parler de quotas. Il avait rappelé, ce qui fait l'essence même du droit d'asile, qu'il n'y a pas de limite. Et je veux, en tant que directeur général de l'OFPRA ici, le rappeler. Il n'y a aucune limite.
En même temps, c'est aussi une hypocrisie.
Alors, c'est un principe et une réalité à rappeler sans cesse. C'est-à-dire que, pour moi, toute personne qui demande l'asile en France doit voir sa demande examinée. Il s'y ajoute des engagements pris par les différents États membres dans le cadre de la relocalisation dont nous parlions. La France, 32 000 de plus en 2 ans. En plus, d'ici à la fin 2017. Je suis convaincu pour ma part que nous pourrions faire plus. Mais ce que je souhaite, c'est que, et là je parle moins comme directeur de l'OFPRA, parce qu'encore une fois, comme directeur de l'OFPRA, je n'ai pas de limite. Mais si je parle comme citoyen ou comme du point de vue des politiques publiques qui sont conduites, encore une fois, ce qui me paraît fondamental, c'est la capacité des Européens, collectivement, à faire vivre l'accueil des réfugiés sans cesse plus, à le faire grandir. Or, si je reprends ce que vous disiez, vous parliez d'une différence d'approche entre l'Allemagne et la France, mais à quel moment ?
Au moment de la crise de l'été dernier.
Mais aujourd'hui, quelle est la position de l'Allemagne aujourd'hui ? L'Allemagne a eu une attitude que je considère comme admirable. Je vous le disais, j'ai le souvenir de ces jeunes Allemandes dans ce hall des expositions à Munich où nous étions là pour accueillir à peu près 1 000 000 de réfugiés en France qui lavaient les pieds de jeunes Syriennes. Quand on connaît l'histoire de l'Allemagne, comme je la connais, comme d'autres la connaissent, moi j'ai une admiration sans borne. Mais ce qui m'importe, c'est que cette politique se fasse dans la durée, que l'on puisse continuer à accueillir dans la durée. La France accueille plus. Elle va continuer à accueillir plus. Je souhaite qu'elle continue à accueillir plus. Mais ceci doit se faire, encore une fois, dans des conditions où les personnes sont hébergées, et donc pas dans des camps. Parce que ma conviction, moi, Patrick Veil m'avait parlé de ce très beau projet que je trouve absolument remarquable. Simplement, en France, on ne reste pas 17 ans dans un camp. On reste 17 ans dans un camp, et vous le rappeliez, et c'est terrible du point de vue de la dignité humaine, en Jordanie, au Liban, ailleurs dans le monde. Mais en France, ces personnes, et c'est la raison pour laquelle l'OFPRA s'engage depuis plus d'un an à Calais, à Grande-Synthe ou des campements parisiens, ces personnes doivent être hébergées dans de bonnes conditions, dans des conditions de dignité pour accéder à la demande d'asile. Donc, nous devons collectivement, en France et en Europe, être dans cette capacité à accueillir sans cesse plus, héberger les gens dans de bonnes conditions, faire en sorte qu'ils aient une réponse rapide à leur demande d'asile et que lorsqu'ils relèvent du droit d'asile, ils aient ce qui reste à inventer en France, ce qui est en cours d'élaboration en France, des conditions d'apprentissage de la langue, d'accès à la culture, d'accès au travail, d'accès au logement pour pouvoir vivre dans la dignité. Parce que, et moi c'est ce que je repensais en vous écoutant, ce qui me motive avec les équipes de l'OFPRA, c'est que ces hommes, ces femmes et ces enfants vivent sans cesse des atteintes à leur dignité, et c'est ce que disait ce très beau texte, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que la France continue ce qu'elle a engagé, qu'elle puisse accueillir plus et dans des conditions d'organisation et de maîtrise, et qu'on soit dans la durabilité, pardon de ce terme, de la capacité à accueillir. Ça n'est pas un jour on accueille et le lendemain on considère qu'on ne peut plus accueillir.
Ce dont on parle n'est pas déconnecté d'une actualité. L'AFP à l'instant signale que 3324 personnes ont été secourues ce dimanche au large de la Libye au cours de 36 opérations annoncées donc par les gardes-côtes italiens, ce qui porte à plus de 10 000 le nombre de personnes secourues depuis jeudi. Les migrants ont été entassés dans 25 canaux ce dimanche. Pneumatiques et un bateau en bois ont précisé les gardes-côtes qui n'ont pas fait état de victimes. Les navires des gardes-côtes et de la marine italienne ont pris part aux opérations de secours ainsi que des bateaux de l'agence européenne Frontex, de l'opération européenne Antipasseur Sophia et des associations françaises Médecins sans frontières étrangères Sea Watch. Pierre Inski.
À vous écouter, on a l'impression que l'Europe est devenue cohérente sur cette question. Or, peut-être qu'entre la France et l'Allemagne, les positions se sont rapprochées, mais l'Europe est certainement très très loin d'avoir atteint cette cohérence. Il y a encore tout un tas d'incertitudes. L'accord avec la Turquie est d'une complexité à mettre en œuvre qui est en plus très contestée. Maintenant, on a le Brexit qui intervient et Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, c'est ça, annonce qu'il veut renégocier les accords du Touquet avec la Grande-Bretagne, donc déplacer dans une certaine mesure le point de frontière. Comment voyez-vous cette complexité-là et comment elle intervient dans votre travail? Parce que le cadre politique et juridique est quand même extrêmement complexe.
Pascal Brice.
Si l'Europe était cohérente dans ce domaine, ça se saurait. Hélas, elle ne l'est pas plus que dans d'autres domaines. Ce que je constate simplement, c'est que nous vivons là, comme dans d'autres domaines, mais de manière... Je redis combien, évidemment, ce hiatus par rapport à nos valeurs fondamentales est douloureux. Nous vivons des situations géographiques différentes. La situation de l'Italie et de la Grèce par rapport à la France ou à l'Allemagne n'est pas la même. Nous vivons des situations politiques et économiques différentes. Nous vivons un rapport historique à la migration, dans les pays de l'Est de l'Europe par exemple, profondément différent. Donc nos différences sont là. Bienvenue en Europe, c'est notre richesse. Et je constate que dans la période, après un temps d'indifférence, des solutions ont été élaborées, notamment l'initiative de Bernard Cazeneuve qui a fait dès l'été 2014 une tournée des capitales européennes pour élaborer ce plan qui repose sur l'accueil dans des hotspots en Italie et en Grèce, la réinstallation depuis les pays tiers, notamment depuis le Proche-Orient, la Turquie, et la relocalisation dans les différents pays européens. Que ceci a été mis en place de manière très partielle. Et que l'accord avec la Turquie était nécessaire parce qu'il faut aider les Turcs, ils accueillent 2 700 000 personnes, vous le savez mieux que moi, à continuer à accueillir dans de bonnes conditions, même s'il y avait certains aspects dans cet accord, vous le savez, notamment ce qui conduit à reconduire des réfugiés depuis la Grèce vers la Turquie, qui me semble poser une difficulté. Et il y a donc nécessité à mes yeux que l'Europe mette en place les décisions qu'elle a prises, réinstaller depuis les pays tiers, accueillir celles et ceux qui arrivent en Italie et en Grèce, celles et ceux qui relèvent du droit d'asile, les protéger et les accueillir en Europe. Simplement, je m'inquiète effectivement de quelques tendances que je note, notamment cette tentation d'extraterritorialiser la gestion de l'asile hors de l'Europe. Or, encore une fois, lorsque quelqu'un... Il faut tout faire pour que les gens ne traversent pas. Ce que vous rappeliez encore, les drames le montrent. Mais si quelqu'un arrive en Europe, s'il relève du droit d'asile, il doit être protégé en Europe.
On doit en rester là pour ce soir. Vous pouvez retrouver les sources de cette émission, articles et références, liens internet, programmation musicale et livres consultés, tout ça sur la page web de cette émission, sur le site Medium ainsi que sur Twitter au mot-clé SoftPower. Merci infiniment à Pascal Brice, directeur général de l'OFRA, Barnabé Louche de Bibliothèque Sans Frontières. Merci aussi à Anaïs Ginori et à Pierre Aski. On se quitte ce soir avec le groupe français R qui vient de sortir 20 Years pour les 20 ans de carrière du duo qui incarne si bien la French Touch, un album de 2 CD. Le premier compile les plus grands morceaux des Français, dont Sexy Boy que l'on a écouté. Et le second, des titres plus rares et inédits. R sera en tournée dans les festivals cet été, aux Eurocaennes de Belfort le 2 juillet, par la suite à Los Angeles et San Francisco, ou encore à São Paulo cet automne. Vous pouvez vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, assistée de David Lavaux, à la régie Alexandre Dang. Soft Power, une émission de Frédéric Martel, réalisée ce soir par Perret Legras. Demain matin sur France Culture, la matinale à partir de 8h. Et puis dans un instant, la suite de nos programmes. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.